Donc c'est un plaisir de recevoir Jacques Dubois. Bon, bien sûr, Jacques Dubois est extrêmement connu, donc présentation n'est pas vraiment nécessaire. Mais enfin, tout de même, je rappelle qu'il est professeur émérite à l'Université de Liège, qu'il a une carrière très intéressante, en commençant avec le groupe MU. Je ne sais pas si les liens sont importants.
On ne s'est pas disputé,
donc c'est bien. Grand spécialiste du roman policier, puisqu'il est il a été responsable de l'œuvre de Simenon dans la Pléiade. D'ailleurs, le roman policier, je pense, le explique un peu pourquoi ensuite il s'est intéressé à Proust aussi, puisque on sait que...
On sait depuis peu
que la recherche est un roman policier avec deux assassinats, au moins deux, celui de la grand-mère et celui d'Albertine. Enfin, Jacques est également l'auteur d'ouvrages que je vais quand même rappeler, L'institution de la littérature, introduction à une sociologie à Bruxelles en 90, donc le roman policier ou la modernité chez Nathan en 96, pour Albertine, que je vais bien sûr faire passer, c'est le sens social, donc le premier vraiment à appliquer la sociologie, l'étude du roman proustien avec Catherine Bidou-Zacariassen, mais l'ouvrage de Jacques Dubois a vraiment fait date. Plus récemment, Les romanciers du réel de Balzac à Simenon, chez Au Seuil en 2000, et puis encore plus récemment, à la découverte, un ouvrage sur Stendhal, une sociologie romanesque. Bon, donc, je pense que Jacques a totalement sa place dans ce séminaire. Personnellement, je suis ravie qu'il vienne ici à l'ITEM. Je crois que c'est la première fois que tu viens parler à l'équipe Proust. Donc, ton sujet, c'est Embusquées et femmes à haut turban.
Voilà.
Pour une sociologie.
Ethnologie.
Merci
Nathalie. Je suis extrêmement heureux moi-même d'être parmi vous et de revoir Nathalie Mauriac. Heureux aussi de retrouver ici mon vieux complice Henri Mitran, qui est là. Il ne doit pas être content que je le désigne du doigt, mais enfin, c'est pour les études littéraires un homme si considérable que ce ne serait pas bien de vous attirer votre attention sur sa présence. Il me fait en tout cas plaisir en venant m'écouter. Voilà. En fait, je vais vous lire un texte que je n'aime pas trop faire à l'intérieur d'un séminaire, mais il se trouve que ce texte est écrit et il est difficile de revenir en arrière. C'est un texte que ce sera le chapitre d'un livre que je prépare, et ce qu'il y aura d'un peu fermé dans la lecture d'un texte sera peut-être compensé, contrebalancé par le fait que, puisqu'on parlait d'énigmes, il y a dans le texte que je vais lire quelque chose dont on pourrait parler à la fin, et qui est le principe d'organisation du livre que je prépare, livre qui ne portera pas que sur Proust, mais sur une dizaine d'écrivains différents, et surtout sur une dizaine de personnages différents. Voilà. Donc je vais lire en essayant de ne pas être trop guindé. Et vous avez reçu, je pense, les exemples, qui sont quelques-uns, pas très nombreux, qui viennent tous du temps retrouvé, bien sûr. Nathalie a eu la gentillesse de rappeler mon livre pour Albertine. Je voulais simplement dire ici que ce livre est épuisé et que je fais pression sur l'éditeur pour qu'il daigne en faire un petit retirage. Ça ne doit pas être très compliqué à notre époque. Et il se fait prier, en tout cas. Donc, si vous pouvez, aux quatre coins du royaume, ou de la République, plutôt, alerter les grands de ce monde, ça me fera plaisir. Voilà. Je lis donc. Dans le temps retrouvé, Proust consacre une longue séquence aux années de guerre vues de Paris. Marcel séjourne alors en maison de santé hors de la ville et ne fait que deux retours, dont le second en 1916 constitue le principal objet du récit. En deux ans, la guerre a changé bien des choses et accéléré le passage du temps. Ainsi, Les conditions sont réunies pour que le revenant, qu'est Marcel, prenne une conscience inédite et distanciée du milieu qui est le sien, tel qu'est ce milieu, tel qu'il devient, tel qu'il ne sera jamais plus comme avant. D'une grande acuité, son regard est en même temps brouillé. Comment faire le départ entre le vrai et le faux, le bien et le mal, quand tant de choses surviennent et se mélangent? En particulier, depuis son poste d'observateur, Marcel est partagé entre le besoin de recenser ceux qu'il fréquentait naguère et qui lui donnent un sentiment aigu de vieillissement social, et le besoin de repérer les nouvelles têtes apparues au sein du Paris mondain qu'il tient d'emblée pour de nouvelles espèces. Le voilà donc engagé dans un travail d'observation qui n'est pas entièrement neuf pour lui, mais auquel, vu les circonstances, il s'adonne avec une résolution particulière. Tel un reporter, il va, il vient, il s'informe, ne relevant cependant aucun fait de guerre et notant au mieux telle évolution politique. Quand je dis qu'il ne relève aucun fait de guerre, et bien sûr il n'est pas au front, mais enfin il pourrait tout de même mentionner telle bataille ou autre chose, et ce n'est pas le cas, si ce n'est les avions dans le ciel de Paris. Le Paris qu'il déchiffre est le Paris des conduites sociales, dont il tente de percevoir les tendances nouvelles, même s'il arrive que celles-ci ne soient que la mise à jour de façon d'agir antérieure, habilement convertie par des acteurs qui savent se retourner. En fait, le bouleversement est si grand et a des effets si collectifs que l'observateur est renvoyé à une position de surplomb. Il ne perçoit la vie sociale qu'à distance, même s'il y participe de temps à autre obliquement. Dès ce moment, c'est moins le rôle du reporter qu'il endosse que celui d'un ethnologue enquêtant sur d'étranges tribus. Partant de quoi, il va notamment s'attacher à évoquer la vie de groupes et d'espèces dont l'apparition surprenante réclame explication. Il y va donc d'une expérience investigatrice qui se manifeste de plusieurs façons. Par sa forme ambulatoire, Marcel marche beaucoup, enfin on peut le deviner, par sa propension à épingler des comportements hors normes, par le recours à des informateurs privilégiés qui l'aident à comprendre. Mais notre ethnologue n'est pas toujours conséquent avec lui-même. C'est ainsi qu'au début et à la fin de la séquence, il réduit la part d'exotisme qu'il attribue à la période de guerre par des références à deux époques historique comparable. Et cela, qui est davantage d'un historien, tient de l'effet de censure, comme si le déjà-vu conjurait la violence de l'inédit. Ainsi, du renvoi à l'époque du directoire, époque marquée par une frénésie de fête et d'élégance, s'emparant de la société française alors même que couvait la crise et que le peuple avait faim. Ainsi encore, de la comparaison attribuée à Charlus avec la catastrophe de Pompéi, qui surprit une ville dans l'exercice de ses plaisirs et jouissances. Censure ou pas, on se dit cependant que Marcel n'est pas le mieux placé pour stigmatiser un Paris qui tourne le dos au tourment de la guerre, lui qui est à sa façon un planqué ou un embusqué. On reviendra sur ce terme. On le surprend d'ailleurs qu'il prête une attention sympathique à ce qu'ont d'inventif les plaisirs du jour. Le fait, malgré le surplomb, l'ethnologie du héros-narrateur est discrètement participative. Ainsi que fait Marcel chez Jupien, alors qu'il espionne le baron de Charlus. Et puis il y a surtout le désir flottant qui court dans la séquence et qu'il est difficile de ne pas rapporter à l'enquêteur, épris tantôt du surgissement d'une modernité et tantôt de certaines régressions dans la sauvagerie, modernité et sauvagerie pouvant d'ailleurs très bien coexister, même se confondre. Pour ce qui est du moderne, par exemple, dans son inventivité, il trouve ici son point de focalisation dans la mode dont il est beaucoup question, mode vestimentaire et mode dans un sens plus large, allant jusqu'à faire de la guerre l'une de ses formes d'expression. C'est que, tout nostalgique qu'il soit d'un monde en disparition, Marcel est fortement requis depuis son expérience albertinienne par toutes les manières dont la nouveauté se signale à son intérêt. Ce ne sont plus ici les plaisirs de la plage qui aimantent son désir, mais les tourments de la guerre et de ce à quoi il donne naissance de façon souvent paradoxale. À ce moderne éruptif et turbulent, le héros-narrateur va conjoindre telle valeur opposée, émanant d'un retour de sauvagerie dans les rapports sociaux. C'est ce qu'illustre la scène chez Jupien, bien entendu, mais c'est ce que traduit autrement telle dérive mentale propre au narrateur et tout à fait étrange, alors que le héros déambule dans un quartier plongé dans la nuit la plus sombre. Et de s'émerveiller de ce que l'obscurité aidant, les passants puissent s'aborder et se toucher en faisant l'économie des travaux d'approche habituels. Quelle commodité est d'autant plus grande que l'on est descendu dans les couloirs du métro où la foule se densifie. Et c'est ma première citation, le passage qui me semble très singulier, très beau. Or, l'obscurité qui baigne toute chose comme un élément nouveau a pour effet, irrésistiblement tentateur pour certaines personnes, de supprimer le premier stade du plaisir et de nous faire entrer de plein pied dans un domaine de caresses où l'on n'accède d'habitude qu'après quelque temps. Dans l'obscurité, tout ce vieux jeu se trouve aboli. Les mains, les lèvres, les corps peuvent entrer en jeu les premiers. Cette réponse immédiate du corps qui ne se retire pas, qui se rapproche, nous donne de celle ou celui à laquelle nous nous adressons silencieusement une idée qu'elle est sans préjugés, pleine de vices, idée qui ajoute un surcroît au bonheur d'avoir pu mordre à même le fruit sans le convoiter des yeux et sans demander de permission. Mais ce rêve d'anarchie ou d'anomie sexuelle ne traverse le tableau qu'en éclair. En fait, à même le chaos, l'ordre règne, assuré par les catégories singulières de la tribu, qui sont, comme on va le voir, des femmes guerrières, des intellectuels dévoyés, des embusqués paradoxaux. Mais assurés autrement encore par la vigilance de quelques figures totémiques qui apparaissent dans le texte en duo contrasté. D'un côté, ces reines que sont dites Madame Verdurin et Madame Pontan, mais qui, vieilles et laides selon le texte, se perçoivent bien plutôt en sorcières. De l'autre, deux intercesseurs, devins, guérisseurs, qui juge pour Marcel le malheur des temps. Soit Charlus et Saint-Loup, mieux aptes que d'autres à voir ce que la guerre met au jour et qui échappe à la plupart. Mieux aptes peut-être parce qu'homosexuel et exprimant le refoulé du héros. Ou mieux aptes parce que, seule guermante de la séquence, leur présence a désormais quelque chose de spectral. Ils sont hors jeu et ils vont vers la mort. On y reviendra quand « Dames à la mode », éditorialistes et embusqués auront été évoqués. Et c'est à quoi je passe. Voici donc les dames à haut turban, si remarquables. Merveilleuses d'un nouveau genre, ces dames forment en texte tout un peuple bruissant. Elles sont l'avant-garde arrogante d'un sexe devenu majoritaire, puisque beaucoup d'hommes sont au front. Elles procèdent aussi de ce procès de classement des classements, que l'accélération du changement social ne cesse d'assurer. Parmi elles, les tarvenues sont d'abord des parvenues, mais qui s'imposent dans le moment suivant pour toiser ensuite, de toute leur hauteur, la vague émergente. Tout cela participant d'un dérèglement de la reproduction sociale que les reines du moment peinent à endiguer, mais qu'elles gouvernent tout de même du haut de leur turban triomphant. S'y consume comme un grand naufrage des traditions et des normes. De tout quoi, et comment s'en étonner, découle une irrationalité véritablement tribale. C'est la reine Verdurin, obtenant la permission d'en haut de se procurer des croissants interdits sur le marché pour soigner sa migraine. C'est la reine Bontemps, femme de ministre, qui livre sur le conflit des informations qui attendent d'être rendues publiques. Citation, dans une sorte de répétition des couturières. C'est magnifique. Mais surtout, ce sont les femmes au turban vouées à un culte qui leur tient lieu de tout, celui du vêtement. La mode vestimentaire leur permet de fétichiser la guerre sur un mode euphorisant. La pesante horreur s'y convertit en élégance frivole. La liste est longue des pièces vestimentaires qui se militarisent de la sorte, haut chapeau cylindrique, tuniques droites et sombres, hautes guêtres façon combattant, bagues et bracelets en fragments d'obus, allume-cigarette fait de dessous, anglais poli par un poilu dans sa cagna, etc. les couturiers sont d'ailleurs de la partie. Il célèbre l'abnégation des femmes qui soutiennent le moral des troupes, distrait des tristesses de l'heure et anticipe sur des temps meilleurs. L'ironie de ces exemples ne saurait échapper, mais elle n'est pas entière. Pour Marcel, l'effervescence soutenue du nouveau fait, fait accepter bien des douleurs. Mais dans la tribu des hauts urbains, le phénomène de mode atteint toute chose et inspire une durée du renouvellement continu. La mode vestimentaire tient la place de l'art et les robes nouvelles font l'objet d'expositions alors qu'est fermé le Louvre. Tel grand couturier s'instaure en artiste à part entière en même temps qu'en moraliste. Le génie des femmes à haut turban est de rendre leur plaisir coutumier plus excitant encore en les travestissant en actions philanthropiques. Les bons sentiments sont au goût du jour. Et alors, nouvelle citation qui me semble très belle elle aussi, et notamment par un effet de postposition d'un complément d'objet, enfin vous allez voir. Quant à la charité, en pensant à toutes les misères nées de l'invasion, à tant de mutilés, il était bien naturel qu'elle fût obligée de se faire plus ingénieuse encore, ce qui obligeait à passer la fin de l'après-midi dans l'été, autour d'une table de bridge, en commentant les nouvelles du front, tandis qu'à la porte, les attendaient leurs automobiles, ayant sur le siège un beau militaire qui bavardait avec le chasseur, les dames à haut turban. Voilà. Ainsi, tandis que ces dames s'entourent de beaux militaires, dont on peut se demander à quel titre ils les attendent dans leurs automobiles, plantons et amants, elles font le bien et participent du mouvement patriotique général. La banale et coutumière névrose mondaine qui pousse à en être en toute occasion et de toutes les façons prend avec ces dames une rare ampleur puisqu'il s'agit de ne rien manquer d'une activité tout en la reversant au registre d'une participation au combat général. Tel est le chic suprême qu'il revient à la dernière phrase citée d'hypostasie à la faveur de cette postposition de complément d'objet, plaçant les hauts turbans dans la gloire de celles qui savent réconcilier le plaisir égoïste avec la générosité requise par le malheur des temps. Le domaine politique lui-même bascule dans la mode. Sidonie Ferdurin tient un salon politique et aime à dire aux nouveaux amis « Vous viendrez à 5 heures parler de la guerre », comme elle invitait naguère à venir entendre Morel, le pianiste. Des éditorialistes font florès. À cette aune, le dreyfusisme ne subsisterait dans les mémoires qu'en effet de mode qui a fait son temps et a vu se produire d'étonnantes conversions. Est ainsi pointée une tendance à l'obsolescence rapide qui gagnera plus tard toute une société consumériste. Tendance contestable ou détestable quant au fond et à sa raison d'être, mais dont la présente séquence retient surtout ce que l'on peut appeler la mode en soi ou la mode pour elle-même. S'agissant de guerre, précisément, ce sont les aspects les plus futiles ou les plus pervers de cet événement tragique qui valent ainsi comme figure valorisable du grand phénomène de la mode. Beauté belliqueuse des turbans encore, mais tout autant Gotha et Zeppelin illuminant le ciel lors d'un assaut contre Paris. Plongée du métro dans l'obscurité ou monde à l'envers des nouvelles soirées vers du vin. Je cite encore, troisième exemple. Mais depuis la guerre, les courriéristes mondains ayant supprimé ce genre d'informations, d'ailleurs en passant un petit peu obscur pour moi. La publicité ne pouvait plus exister que par ce moyen enfantin et restreint, digne des premiers âges et antérieur à la découverte de Gutenberg, être vu à la table de Madame Verdurin. Après le dîner, on montait dans les salons de la patronne, puis les téléphonages commençaient, mais beaucoup de grands hôtels étaient à cette époque peuplés d'espions qui notaient les nouvelles téléphonées par bon temps avec une indiscrétion. C'est donc le ministre qui téléphonait les nouvelles, avec une indiscrétion que corrigeait seulement, par bonheur, le manque de sûreté de ces informations, toujours démenties par l'événement. Donc c'est drôle, évidemment. Pauvre bon temps. Je passe à la seconde catégorie, et je les appellerai d'un mot repris de Pierre Bourdieu, les doxosophes, enfin, coquetterie, hein. Un autre groupe, une autre secte se constitue d'un échantillon de représentants de l'intelligentsia indigène. Ils se nomment Brichot ou Norpois, comme aussi Morel, sur un mode plus futile, et se répandent dans les journaux. Ce sont gens qui ont acquis assez de notoriété dans leurs domaines respectifs pour convertir leur crédit en intervention autorisée auxquelles le grand public accorde foi. Procurant à la presse, chroniques et éditoriaux, ils font l'opinion, ou tout au moins la gratifient des propos qu'elles souhaitent entendre. Se multiplient sous leurs plumes les déclarations bellicistes qui célèbrent la vaillance de la France et de son armée face aux méfaits commis par l'ennemi teuton. Ces intellectuels viennent de l'avant-guerre, mais les événements les ont transfigurés, leur procurant une audience qu'ils ne pouvaient imaginer avoir et qui, en un sens, les dépasse. Par contre-coup, l'opportunité de se produire en public quotidiennement engendre chez eux une forme de bêtise faite d'opportunisme vulgaire. Le succès aidant, on les voit recourir dans leurs propos aux lieux les plus communs ou formules les plus convenues. Et c'est comme si, dans le climat de la Première Guerre et via la presse écrite, s'annonçaient ces intellectuels médiatiques qui se répandent de nos jours sur les plateaux de télévision et abreuvent le public de considération passe-partout. Ainsi, anticipant avec éclat, Marcel Proust annonce le temps des doxosophes qui, traversant le XXe siècle, est éminemment le nôtre, nouveau média aidant. Avec Brichot en particulier, Proust stigmatise cette catégorie de savants qui, gagnés par l'ivresse d'exhiber leurs personnes, pervertissent leur savoir dans la production d'un prêt-à-porter toxique et toxique. Merci à Proust d'avoir finement vu ce qui se profilait, si peu réjouissante que soit la chose. Norpois pervers, diplomate, il l'est, pourrait-on dire, par vocation et profession, aimant à se répandre en paroles équivoques. Mais la présente situation excite chez lui un penchant à la fabulation aberrante. Ainsi, Norpois truffe ses articles de sortes de prophéties autoréalisatrices du type « L'Amérique ne saurait rester indifférente à ses violations répétées du droit ». Il annonce ce qui va arriver et qui n'arrive pas nécessairement, bien sûr, qui sont manières de travestir espoir et désir en fait avérés. Mais le grand affabulateur médiatique, eh bien, Brichot, dit Chochotte, l'érudit qu'il fut, se montre désormais si plein de lui-même qu'il se retient mal de parler à la seule première personne. En renfort de la trivialité de ses propos, il croise la platitude des formules proverbiales usées avec la prétention des références culturelles dans une sorte de pillage incontrôlé. Et s'alignent sur lui les discoureurs de salon qu'il se nomme Cottard, Cambremer ou Odette de Forcheville. Alors ici de nouveau, oui, la quatrième citation. La vulgarité de l'homme apparaissait à tout instant sous le pédantisme du lettré et à côté d'images qui ne voulaient rien dire du tout. Les Allemands ne pourront plus regarder en face la statue de Beethoven. Schiller a dû frémir dans son tombeau. L'encre qui avait paraffé la neutralité de la Belgique était à peine séchée. Lénine parle, mais autant en emporte le vent de la steppe. C'était des trivialités telles que 20 000 prisonniers, c'est un chiffre. Notre commandement saura ouvrir l'œil et le bon. Nous voulons vaincre, un point, c'est tout. Mais mêlé à tout cela, tant de savoir, tant d'intelligence, de si justes raisonnements. À vrai dire, on se demande où ils sont, mais on fait confiance. Voilà, prenant prétexte de ces faussaires intellectuels que sont les deux éditorialistes, le narrateur s'associe au baron de Charlus pour dénoncer une prostitution générale des esprits donnée pour le produit de la guerre. L'un et l'autre démontrent même que les abus de pensée commis de la sorte passe par des abus de langage spécifiques qui montrent que l'idéologie affecte les structures les plus incorporées de l'être, ce en quoi elle est politique. Oui, donc, pour être un peu plus précis peut-être, il me semble qu'à chaque fois, j'ai pas repris ça, mais Proust fait un petit détour par des formes langagières qui sont au plus essentiel de ce que j'ai appelé la perversion. J'en viens ainsi à la troisième catégorie, les embusqués auxquels j'ai adjoint les permissionnaires, parce qu'on va voir que les deux catégories sont à la fois confrontées et proches. Donc un troisième groupe réunit des hommes jeunes en puissance d'aller au front et de se battre. Or, si certains sont enrôlés et envoyés vers la guerre, d'autres se dérobent au devoir et restent à Paris. Le récit recense les uns et les autres, au cas par cas, produisant cette fois un effet de série plus que de groupe, donc il n'y a pas véritablement de désignation collective. Dans cette série se retrouvent quelques proches de Marcel, et toute la question est de savoir lesquels d'entre eux sont prêts à payer l'impôt du sang, comme on disait alors. Mais que Proust ne dit pas. Une grande affaire des années de guerre fut en effet celle de l'embuscage, largement pratiquée par d'aucuns, et dénoncée en permanence par bien d'autres, au Parlement, dans la presse, etc. C'était une sorte de débat permanent, et à propos duquel d'ailleurs des lois ont été votées. Au sens strict, l'embusqué est l'homme jeune qui obtient, alors qu'il est enrôlé dans l'armée, d'occuper un poste non exposé ou de faire partie d'une unité non combattante de l'arrière. Mais en pratique, et à l'époque même, le mot s'étend à tous les mâles qui, en âge d'armée, ont réussi à ne pas passer à l'état militaire pour une raison ou pour une autre. Donc, d'embusqué à planquer, il n'y a pas beaucoup dans l'esprit des gens de distance. De fait, dans le temps retrouvé, les cas pris en compte sont bien plutôt ceux d'individus réformés. Mais entre les deux profils, la distance n'est pas grande. D'autant que l'on est souvent réformé comme l'on est embusqué, à savoir par protection. Aussi, voit-on la vieille Françoise, la domestique dont vous vous souvenez, qui, toute patriote qu'elle se clame, tente d'obtenir que soit exemptée de l'enrôlement, tantôt son neveu, tantôt un garçon boucher, dont elle s'est entichée et qu'elle cherche vainement dans Paris. Non seulement elle s'est entichée de lui, mais elle essaye de le retrouver pour le faire réformer. Mais l'embuscage prend un sens différent encore, dès le moment où il désigne et dénonce tous ceux qui, dans ce grand arrière du front qu'est Paris, se donne du bon temps et passe, malgré les mesures d'exception, d'un plaisir à l'autre sans coup férir, et c'est le cas de le dire. À croire que dans la citation qui suit, la réprobation du permissionnaire s'étend aux individus qui, sans distinction d'âge et de sexe, profitent des plaisirs de la nouvelle Pompéi. Nous avons la citation 5. Il, c'est-à-dire le pauvre permissionnaire, et ce pourrait être Saint-Loup dans un autre passage, disait en voyant se bousculer les embusqués retenant leur table, on ne dirait pas que c'est la guerre ici. Puis, à 9h30, alors que personne n'avait encore eu le temps de finir de dîner, à cause des ordonnances de police, on éteignait brusquement toutes les lumières, et la nouvelle bousculade des embusqués arrachant leur pardessus aux chasseurs du restaurant, où j'avais dîné avec Saint-Loup un soir de Perme, avait lieu à 9h35 dans une mystérieuse pénombre de chambre où l'on montre la lanterne magique. Vous voyez comme ce souvenir a émigré à travers tous les volumes. Donc, où l'on mystérieuse pénombre de chambre où l'on montre la lanterne magique, deux salles de spectacle servant à exhiber les films d'un de ces cinémas vers lesquels allaient se précipiter dîneurs et dîneuses. Les Proustiens qui sont ici, je ne suis pas si Proustien que ça, mais les Proustiens qui sont ici me diront peut-être si, à la lumière de ces citations, vous avez l'impression que le style de Proust est en train de varier beaucoup. Enfin, il me semble qu'il y a tout de même des effets qui me semblent propres à ce dernier volume. Voilà pour le pauvre permissionnaire et voilà pour les embusqués d'ailleurs. Sur cette toile de fond collective se détachent quelques figures connues. Venues du monde d'avant, ils forment un carré qui paraît résumer à lui seul les cas possibles. Ils sont de vieux copains de Marcel à un titre ou à un autre. Or, ce qui va réjouir le narrateur est un double effet de sens. D'une part, chacun d'eux se comporte suivant une logique qui a toujours été la sienne et persévère ainsi obstinément dans son être. Donc, si vous voulez, face à la guerre, face à l'embuscage, chacun continue d'être intimement soi-même. Mais de l'autre, la solution que chacun apporte à son devoir de guerre est pour le moins paradoxale. Et c'est en cela que tous quatre, participe d'une étrange sous-tribu qui témoigne elle aussi de l'étrangeté des temps. Voici Octave dit dans les choux, rencontré au temps des jeunes filles en fleurs. Le parfait sportsman assez snob qui frayait avec la petite bande a donné le mari d'une amie d'Albertine en même temps qu'un écrivain coté. Très physique et très en vue jusque-là, il aurait dû se retrouver au front, mais un mauvais état de santé providentiel lui vaut la réforme. Voici Bloch à présent, qui fait l'objet d'une stigmatisation plus marquée. On le connaît en spécialiste de l'hypocrisie et du double jeu. D'abord sûr de bénéficier d'une réforme pour myopie, il affiche un bellicisme sans faille. Ensuite, se retrouvant malgré tout enrôlé, il verse illico dans un défaitisme pacifiste. Cohérence toute paradoxale qui l'induit à se répandre en rumeurs et fausses nouvelles, fidèle en cela à son père, si mon souvenir est bon. Voici Morel, jamais à une vilenie près. Le récit dit de lui des choses contradictoires cependant. Travaillant au service de presse de l'armée, il aurait fini par s'engager. Mais il passe aussi pour avoir déserté, puis ayant été découvert, pour avoir été envoyé au front où il s'est battu avec tant de courage qu'il s'est vu décerner la croix. C'est bien de lui que de rouiller ainsi les cartes, et c'est bien de son narrateur aussi, pour autant que cette espèce de contradiction ne soit pas résolue dans le texte. Saint-Loup, enfin, Bloch a prétendu que le beau Robert avait bénéficié d'une planque dorée pour fils de famille, sans savoir que, tout en se prêtant au jeu, Saint-Loup en intriguait pour rejoindre les troupes du fond. De fait, il se retrouve dans les tranchées et y combat avec vaillance. Nous quittons ici le camp des embusqués, mais Robert fait mieux encore puisque, extrême en ceci comme en autre chose, il vit au milieu des poilus. Il se fait d'ailleurs le porte-parole du petit peuple dans la lettre émouvante qu'il adresse à son ami Marcel et qui évoque l'abnégation des hommes. Nouvelle citation en italique puisque c'est une lettre. Mais si tu voyais tout ce monde, surtout les gens du peuple, les ouvriers, les petits commerçants, qui ne se doutaient pas de ce qu'ils recelaient en eux d'héroïsme et seraient morts dans leur lit sans l'avoir soupçonné, courir sous les balles pour secourir un camarade, pour emporter un chef blessé et frapper eux-mêmes, sourire au moment où ils vont mourir parce que le médecin-chef leur apprend que la tranchée a été reprise aux Allemands, je t'assure, mon cher petit, que cela donne une belle idée des Français et que ça fait comprendre les époques historiques qui nous paraissaient un peu extraordinaires dans nos classes. Au contact d'une telle grandeur, poilu est devenu pour moi quelque chose dont je ne sens même pas plus, on a envie d'indiquer un cycle là, encore que, enfin vous me direz, dont je ne sens même pas plus s'il a pu contenir d'abord une allusion ou une plaisanterie que quand nous lisons Chouan, par exemple. On connaîtra donc le marquis en permissionnaire, ce qui l'entoure d'un halo surnaturel. Il vient du monde des morts. Ces permissionnaires sont partout en texte, mais de la façon la plus diffuse. Les plus repérables fréquentent la maison de Jupien, se faisant des suppléments de soldes, sans que cela diminue en rien leur irréalité. Il y en a aussi qui sont présents dans l'hôpital de campagne qu'a établi Charlus dans sa propre demeure. Toujours est-il que Paris abonde en soldats de toutes armes et de toutes nations, et l'on pourrait croire que la féminisation de la ville d'abord relevée est trompeuse, mais là où les femmes sont battantes et impérieuses, les militaires ont curieusement une existence errante et fantomatique. Dames au turban, doxosophes, embusqués, sont emportés dans le tourbillon des plaisirs que programme la tribu nouvelle. Mais qu'en est-il du désir vrai dans toute sa force pulsive? Il faut le chercher ailleurs. Et pour le narrateur, il s'associe à deux êtres tenus à l'écart du mouvement d'ensemble et venant clairement du monde d'avant, ce monde en train de sombrer. Ces vecteurs inattendus du désir sont Charlus et Saint-Loup, les deux seuls guermants présents dans l'épisode et dont les trajectoires viennent culminer dans une gloire paradoxale, scandaleuse et fantomatique. Mis soudainement en présence d'une société exotique, le narrateur héros a trouvé en eux de précieux intercesseurs. Il s'attache donc à leur conduite comme à leur jugement, mais il retient surtout que la nouvelle société les a marginalisés, faisant d'eux des observateurs critiques dont le regard est précieux pour l'ethnologue d'occasion qu'ils se trouvent être. Leur commune position oblique leur permet de conjuguer un dégagement social avec un engagement moral qui retient l'attention du héros au point qu'il s'identifie à eux et trouve en leur personne le moyen de conjurer la menace qu'exerce sur lui la nouvelle société. Partant de quoi, désirable autant que désirant, Charlus et Saint-Loup focalisent sur eux une libido tantôt ciblée, tantôt diffuse, par rapport à laquelle le héros-narrateur est amené à se situer en permanence, sans trop pourtant le dire. Pour la libido ciblée, c'est la participation aux ébats de la maison de passe, bien sûr, violente et affichée pour ce qui est de Charlus, profanatrice et supposée dans le cas de Saint-Loup, subversive en tout cas, chez l'un comme chez l'autre. Quant à la libido diffuse, c'est le commun rejet de l'efféminement des hommes allant jusqu'à l'adhésion fervente à la guerre comme régime où le masculin se sépare nettement du féminin et permet de ne vivre que parmi les messieurs. La guerre, citation brève, la guerre est le roman passionné des homosexuels. Oncle et neveu jouent la même partition virile, mais avec des accents contrastés qui vont parfois jusqu'au comique. Et je cite encore, c'est la citation 7. Et ainsi, quoiqu'il y eut bien d'autres choses encore dans son courage, le fait qu'il était un grand seigneur s'y retrouvait, et s'y retrouvait aussi sous une forme méconnaissable et idéalisée, l'idée de M. de Charlus que c'était de l'essence d'un homme de n'avoir rien d'efféminé. D'ailleurs, de même qu'en philosophie et en art, deux idées analogues ne valent que par la manière dont elles sont développées, de même, tout en reconnaissant combien ils tiennent en faisant cela l'un de l'autre, j'admire Saint-Loup demandant à partir au point le plus dangereux, infiniment plus que M. de Charlus, évitant de porter la cravate claire. Voilà, donc c'est la même chose et c'est en même temps absolument différent. On relèvera surtout que cette commune libido a d'autres orientations que sexuelles et qu'elle s'élargit d'une portée affective et esthétique rayonnante. Ainsi, des deux beaux passages qui ont trait au vol des avions dans le ciel. Un raid de Zeppelin inspire à Saint-Loup une célébration émerveillée où les élans des aviateurs sont comparés à une orchestration wagnérienne soutenue par le chant des sirènes. Plus loin, ce sont des aéroplanes français fusés dans le ciel qui suscite chez Charlus un couplet sur la vaillance des pilotes. Alors que les deux guermants glissent vers la déchéance et sont guettés par la mort, leur vitalité singulière et polymorphe continue à assurer l'expansion de leurs désirs, et même plus que jamais, si l'on veut. Entre oncle et neveu, entre guermantes de père et guermantes de mère, se produit une étrange convergence tendant à si bien les confondre que toute caractéristique de l'un finit par valoir également pour l'autre. Le texte ne cesse d'ailleurs de les rapprocher, de les comparer. Ainsi, il attribue à tous deux le même « tempérament nerveux », entre guillemets, le même « caractère profondément passionné », entre guillemets. Évidemment, la conversion tardive du neveu à l'homosexualité joue son rôle dans cette assimilation de l'un à l'autre. Par ailleurs, le narrateur, qui demeure vieux jeu, ne peut s'empêcher d'invoquer le rôle de l'héritage auquel renvoient diverses propriétés. Citation, la 8e. À une autre génération, sur une autre tige, comme un acteur qui reprend le rôle joué jadis par Bresson ou Delaunay, Saint-Loup était comme un successeur, rose, blond et doré, alors que l'autre était mi-parti très noir et tout blanc. De M. de Charlus, Il avait beau ne pas s'entendre avec son oncle sur la guerre, s'étant rangé dans cette fraction de l'aristocratie qui faisait passer la France avant tout, tandis que M. de Charlus était au fond défaitiste. Il pouvait montrer à celui qui n'avait pas vu le créateur du rôle comment on pouvait exceller dans l'emploi du raisonneur. Mais le point d'intersection le plus significatif, le point d'intersection entre les deux personnages, le plus significatif a trait à la manière dont sexuel et libidinal s'articulent l'un à l'autre, chez l'un comme chez l'autre. Il y va chez le romancier d'une conscience fine de l'interdépendance des deux registres, en ce que dans leur relation même, il touche à la structure dans ce qu'elle a de plus fondateur. Ainsi, du bain de virilité dans lequel la guerre plonge les deux personnages et qui leur fait éprouver des Proust une volupté cérébrale. Saint-Loup vit au milieu des poilus et s'abîme dans la proximité chaleureuse entretenue avec les classes inférieures. À Paris, Charlus croise d'innombrables militaires de toutes origines, fraternise avec eux, s'émerveille de la beauté grecque des soldats anglais. Et de se perdre à son tour, lorsqu'il est chez Jupien, dans la familiarité avec ouvriers et mauvais garçons, d'ailleurs permissionnaires pour certains et venant peut-être du régiment du neveu. Si en ces cas, la jouissance est en jeu, manifeste ou voilée, on ne peut ignorer qu'il y va inséparablement d'un geste démocratique. Comme si l'oncle et le neveu voulaient en finir avec les exclusions et les dédains propres à leur classe. C'est ici que la fréquentation de la maison de Jupien prend tout son sens. Charlus y profane son rang, Saint-Loup son uniforme, la croix qu'il perd, exprimant ainsi dans une violence malfaisante la distance qu'ils prennent avec leur milieu d'appartenance qui pour eux a cessé d'être le monde. Le recours à une prostitution vile se fait défi et subversion autant de la patrie en danger. D'autres convergences s'ajoutent qui finissent par occasionner chez le lecteur un trouble de la vision. Qu'est-ce qui est de Saint-Loup et qu'est-ce qui est de Charlus ? À noter que durant toute la séquence, oncle et neveu ne sont jamais en présence l'un de l'autre comme s'ils se relayaient dans un même rôle. Ainsi, sans qu'on l'on puisse pour autant les confondre, prend forme à travers leurs deux êtres un super personnage, mais non pas un surhomme pour autant, qui par addition de ses deux origines occupe largement l'espace du texte, mais en opérant de préférence sur les marges de l'action. Cette création fusionnelle est fondée sur un rapport métaphorique qui agit d'autant plus puissamment qu'il se nourrit de relations paradoxales où les oppositions se dépassent, dialectiquement, telles celles du patriotisme et de la germanophilie à laquelle nous arrivons à présent. Ainsi, en effet, le neveu s'engage et lutte avec un courage exemplaire, je le répète, patriote jusqu'au bout des ongles. Il meurt au combat. Charlus, de son côté, cultive une germanophilie plus ou moins discrète qui tient à ses liens avec l'Allemagne, avec la Bavière en particulier, comme à une admiration de la rigueur prussienne. Champion des inversions symboliques et parfois moins symboliques, le baron choisit de retourner son prestige en position intenable pour un membre de l'aristocratie française. Il se pose du fait même en bouc émissaire qui refuse de hurler avec les loups. Et c'est avec succès puisqu'il est bientôt rejeté de tous ou presque. Mais au total, ce ne sont là que les deux faces d'une même attitude profonde. L'opposition se réduit d'ailleurs dans tel détail. Saint-Loup, par défi, aime à citer les grands noms de la culture allemande, tandis que Charlus contribue à l'effort de guerre en mettant sur pied cet hôpital quelque peu mythique dont il est question. N'importe comment, la même superbe inspire les deux comportements. Saint-Loup oppose sa vaillance à la désertion des embusqués et n'entend le faire qu'au plus près d'un peuple qui souffre et qui meurt. Charlus, quant à lui, dresse sa germanophilie en rempart face au chauvinisme et au jusqu'au boutisme des imbéciles que sont, par exemple, les doxosophes. Il dit d'ailleurs que s'il était allemand, il serait francophile. C'est la bêtise moutonnière des patriotes de fraîche date qui l'excède. Aux extrêmes et par un passage à la limite, les attitudes opposées se rejoignent ainsi. De chaque côté, il s'agit de faire pièce aux conduites dominantes, et le courage sans ostentation que manifeste ainsi le personnage duel prend d'autant plus de valeur qu'il est loin d'être irréprochable à de mauvaises fréquentations et des comportements que l'opinion réprouve. Ainsi, les deux héros se rejoignent dans une distance prise avec la doxa, chacun usant de ses moyens propres. Le défaitisme mine l'exaltation cocardière, l'égalitarisme au combat contrarie la hiérarchie des classes et la prétention nobiliaire. L'idée qui court dans toute la séquence est que Charlus Saint-Loup a profité de la guerre pour aller jusqu'au bout de lui-même, pour exacerber ce qu'il avait en partage. De là à en faire un champion de la démocratie et ou du pacifisme, il y a évidemment plus qu'un pas. Tout son propos est de... Tout son propos est de jouer, tout le propos de ce personnage duel est de jouer l'idéologie des temps antérieurs contre celle de l'époque nouvelle en se positionnant en rupture de l'une et de l'autre. Le trait majeur où vient culminer cet extrémisme est la bonté. En celle-ci convergent et se confondent la sainteté de l'aîné, selon le mot de Morel, hein, qui dit il est parfaitement bon, c'est un homme parfaitement bon, et l'héroïsme fraternel du second. Il y a sublimation des deux parcours en un seul, et c'est comme si dans un monde de plus en plus égoïste, une aura de générosité baignait ce personnage duel. Cette bonté est d'autant plus saisissante qu'elle est le produit d'une conversion du mal en bien, les deux guermantes vivant dans le vice aux yeux de ceux qui savent. Ainsi, de la tendance des deux aristocrates à se positionner en rupture de caste, à se porter vers des gens du peuple, à prendre plaisir à leur fréquentation. C'est un des bienfaits connus des guerres que de faire se rencontrer gens d'en haut et gens d'en bas. Dans cette bonté active, le romancier croise deux esprits qui lui tiennent à cœur et qui lui viennent de loin. L'esprit Saint-André des Champs, rappelé dans Le Temps Retrouvé. Donc, l'esprit Saint-André des Champs, voulant que seigneur, bourgeois et serf se réclament d'une même origine et soient aussi solidaires les uns des autres, et le meilleur de l'esprit Saint-Germain, Faubourg Saint-Germain, en ce qu'il inspire, je cite, le respect des hommes intelligents, pas nés, deux esprits venus de loin, comme dans le temps comme dans le texte, mais qui semble connaître une reviviscence au cœur même de la perdition. Se retrouve ici l'étrange utopie proustienne selon laquelle, dans une société où la question des rangs est encore si prégnante et où les différences sociales peuvent générer une rare violence, il y a place dans le comportement des meilleurs pour un déni actif des rapports de classe. C'est que la guerre, encore elle, a en propre de provoquer dans le tissu social une bipartition qui n'est plus le commun clivage, mais impose un choix plein de sens. Il y a ceux qui sont du parti de la souffrance et ceux qui profitent de la situation, la tribu encore une fois. Et parce que ce clivage ne recoupe pas strictement celui qui oppose les dominants et les dominés, il a le pouvoir de faire apparaître le travail de la distinction sous un jour nouveau. C'est Sidonie Verdurin trempant, c'est encore une fois Sidonie Verdurin trempant un croissant obtenu par faveur dans le café au lait tout en s'exclamant quelle horreur à propos d'un naufrage. Charlus fut longtemps du camp du mépris, mais il se reprend ici par un biais inattendu. C'est lorsqu'il accuse lui-même et ses semblables, dont Saint-Loup et Marcel, de dilettantisme en regard de la rigueur que montrent les Allemands à l'égard d'eux-mêmes et de leur nation. Sans doute certaines mondanités frivoles est-elle ici en cause, mais l'accusation peut s'étendre à une absence de sens de la réalité sociale. Certes, depuis Morel, Charlus sait que l'autre existe et Saint-Loup a depuis longtemps de vagues idées socialistes, mais a surgi d'un coup à leur conscience commune l'idée que des gens triment et souffrent, que quelque chose comme le travail existe, fût-ce sous la forme de singulières heures sup prestées dans une maison de passe pour homosexuels. Après tout, se soumettre aux flagellations de Maurice est encore manière de nouer l'alliance avec des classes laborieuses que Charlus, et peut-être son neveu tout autant, dans son désir dévié, ne voudrait pourtant ne connaître qu'en classe dangereuse. Toujours est-il que Charlus Saint-Loup a pris ses distances avec le beau monde, que ce soit celui du Salon Verdurin ou que ce soit sa version moderniste, incarnée par la tribu nouvelle des embusqués, des doxosophes et des damaturbans. Il opte en revanche pour un univers de virilité qu'il fréquente de diverses manières et dont il apprécie la bigarrure sociale comme l'engagement à haut risque. Dans cette conversion, une homosexualité de plus en plus assumée a joué son rôle, comme aussi la confiance que le héros narrateur, notre ethnologue, fait de plus en plus au personnage duel jusqu'à se reconnaître en lui. Mais qui donne consistance à ce super personnage? Qui confond les deux destins ou les superpose? Plus simplement, qui en a l'idée, si ce n'est moi? Ce ne semble pas être l'auteur à proprement parler, non plus que son narrateur qui est son délégué. Est-ce donc un effet de texte ou d'écriture? Portons cela au crédit d'une activation de l'univers des figures que le texte en effet met en mouvement et peut-être qu'il autorise, mais qui ne se produirait pas sans la rêverie du lecteur autour de ces figures-là. Voilà. J'avais un petit supplément de texte, mais je vais m'en tenir à ceci, je vous l'expliquerai peut-être. Merci en tout cas.
Je
n'y ai pas pensé comme ça, mais vous écoutant, je trouve que ce serait très bien de le dire ainsi. Je ne sais pas, pour ce qui est de l'aristocratie, si nous aurions beaucoup d'arguments dans le texte, si ce n'est qu'il y a un petit épisode que je n'ai pas mentionné, mais le fils Vaugoubert meurt aussi au combat. Donc, ils sont... Vaugoubert, c'est un aristocrate, hein, c'est deux Vaugoubert. Voilà, donc les deux exemples qu'on peut prendre d'aristocrates soldats, oui, vont dans ce sens-là, finalement. Et donc, ça marcherait bien avec l'esprit Saint-André des Champs, d'une certaine manière, non enfin.
Oui, ou peut-être la fin d'une certaine société, oui. Et l'émergence d'une nouvelle société urbaine, profiteuse, sur le dos des autres.
Oui, oui. Vous allez un peu plus loin comme
ça. Oui, sans doute.
Mais...
ceci dit, historiquement, ce n'est pas forcément faux.
Non, non plus. Non plus. Merci.
Merci pour cet exposé. Et je voulais alimenter votre texte par un passage concernant justement la mode. Et bon, le narrateur dit « Son élection fut saluée avec joie par tous les journaux qui avaient fait l'union sous son nom par des dames nobles et riches qui ne portaient plus que des guenilles par un sentiment de convenance et la peur des impôts. Tandis que les hommes de la bourse achetaient sans arrêter des diamants, non pour leurs femmes, mais parce qu'ayant perdu toute confiance dans le pays d'aucun peuple, ils se réfugiaient vers cette richesse palpable et faisaient monter la devirs de 1000 francs.
Vous avez le numéro de la page ?
Oui, la page 153 dans la Pléiade et 432-433 dans la collection Blanche.
Ah oui, je n'ai ni l'une ni l'autre.
Et à propos de...
Mais nous sommes dans la séquence guerre du temps retrouvé, là.
Oui.
Parce que
oui,
ça pourrait être ailleurs.
Enfin, peut-être un peu après, puisqu'il parle d'élection.
Ah oui.
Mais je trouvais que le fait de...
Oui, c'est tout à fait intéressant,
que les dames riches aient des certaines guenilles pour que les impôts ne leur tombent pas dessus, c'est le signe extérieur de richesse.
Oui. Ça irait en effet dans le sens de, des vêtements qui sont militarisés. Enfin, on adopte toutes sortes de... On adhère aux tendances du temps tout en pratiquant une mode, mettant en œuvre une mode coûteuse et de plus en plus excentrique. Mais on s'aligne sur les critères idéologiques. Enfin, on peut dire quelque chose comme ça. Bien sûr, merci. Je vais essayer de retrouver ce passage.
Et d'autre part, en ce qui concerne le père missionnaire qui regarde ce dimanche, ça rappelle la scène à Babek, quand les gens sortent
Absolument.
De leur travail et regardent à travers la grande vitre les gens qui mangent le homard ou la bourse.
Oui. C'est tout à fait ça, oui. Bien sûr, merci.
Quant aux femmes au turban, il y a une lettre à Paul Morand où Proust parle d'une princesse que Kolb identifie comme un Lucien Luma, qui il la décrit comme une femme à haut turban, comme une sultane de Favard. C'est une lettre de 1917, je crois. Donc là, c'est intéressant qu'il y a un détail précis dans la vie réelle d'une aristocrate. Qui
le
décrit comme une femme à haut turban.
Mais on peut supposer de toute façon que les femmes s'habillaient ainsi, hein,
oui.
Plus largement.
C'est bien de trouver une personne précise.
Il semblerait d'ailleurs que sous le directoire, c'était aussi des chapeaux en hauteur.
Ça correspond à une mode réelle, c'est un retour.
J'ai pas été voir, mais enfin.
Est-ce qu'il y avait vraiment des chapeaux un peu en forme de turban ou c'est un. Je veux dire, parce qu'il y a apparemment une source là.
Il y a un document qui est une mine à ce sujet. Ce sont des caricatures faites par l'actrice Pauline Carton pendant la guerre de 14-18, et tout ce que vous avez dit là sur la direction des gens, des dames en particulier, leurs vêtements se trouvent abondamment dans ces caricatures. Il y en a beaucoup de tous en place.
Avec des.
Oui, c'est des vêtements très très hauts. Et puis aussi toutes ces fantaisies qui consistent à être très aimable, avec des... à faire des choses, mais en même temps à être très égoïste. C'est très intéressant.
Et justement, dans le prolongement de ce dit M. Hureau, est-ce que le vêtement n'est pas un indice de superficialité en ce qui concerne les femmes? Parce que j'ai l'impression que la mère et la grand-mère du narrateur ne sont jamais décrites par leurs vêtements, alors que du monde d'elle, et notamment les femmes pendant la guerre, telles que vous les avez merveilleusement décrites et commentées, il y a un surenchérissement pour les dénoncer, alors que j'ai l'impression que ça...
Oui, c'est une affaire compliquée. D'abord, de toute façon, je pense que Proust, vis-à-vis de la mode, est assez ambivalent. Enfin, il hérite en partie, je prends en considération l'ensemble de la recherche, enfin, sans toujours bien connaître, mais il me semble qu'il hérite un peu de l'austérité grand-maternelle ou même maternelle à l'égard de cela. Mais en même temps... C'est évidemment Albertine qui me revient à l'esprit. Il apprend ce qu'est la mode à travers elle, qui elle-même fait son apprentissage chez Madame de Guermantes. Donc les robes de Fortuny, etc. Bon. Alors, dans ce passage-ci, on retrouve, je pense, cette espèce d'incertitude. Et c'est le petit passage que je n'ai pas lu, enfin, que j'ai laissé de côté pour ne pas embrouiller les affaires, mais... Donc Charlus dénonce le dilettantisme, qui est toutes sortes de choses, mais qui est en particulier une condamnation de ce que vous appelez la superficialité, hein. Mais en même temps il y a un retournement à un certain endroit où Proust en tout cas célèbre le goût de la frivolité, une sorte de frivolité supérieure chez Charlus, qui a pour effet que la guerre elle-même sera plus tard perçue comme la guerre de 14-18 sera elle-même perçue comme une mode, si vous voulez, telle que l'affaire Dreyfus l'est devenue aussi. Hein, c'est dans les débuts là qu'il dit les anti-Dreyfusards d'hier sont devenus des Dreyfusards, enfin, etc. Et puis à un autre endroit, il dit... tout ça n'est plus que de l'ordre de la mode. Il dira cela de la guerre, avec une espèce de sous-entendu, mais ce n'en est peut-être pas un tout à fait, qui est que... oui, c'est ça, il emploie une très belle expression, enfin, pour moi elle est très belle. Il dit que la mode est la chose durable, d'une certaine façon. La chose durable. Ce n'est pas la mode, à proprement parler. C'est la citation 9. Voilà. Il gardait tout son respect, toute son affection à de grandes dames accusées de défaitisme. Donc c'est Charlus, hein, j'ai oublié de l'indiquer. Comme jadis à celle qui avait été accusée de dreyfusisme. Car sa frivolité était si systématique, ce que je ne crois pas, mais enfin, que la naissance unie à la beauté et à d'autres prestiges était la chose durable et la guerre, comme l'affaire Dreyfus, des modes vulgaires et fugitives. Donc il y aurait en quelque sorte deux sortes de modes, les modes vulgaires, dont sont les grands événements, les événements historiques, ceux dont on parle en tout cas. Et à l'inverse, il y aurait une sorte de mode noble, issu de la naissance et de la beauté. La beauté, on comprend bien qu'est-ce que la naissance vient faire là, mais enfin, oui quand même. Qui serait le plus grand raffinement du goût, si vous voulez, et qui s'exprimerait dans le vêtement. Donc je pense que, je ne sais pas s'il y a un livre, parmi tous les livres qui existent sur Proust, il y en a peut-être bien un sur Proust et la mode, enfin la mode en tant qu'idéologie. Vous l'avez écrit ?
Non, il y a plusieurs livres sur Proust et la mode.
Il y en a plusieurs.
Et sur le côté idéologique,
non, c'est ça. Ceux qui en pensent vraiment, il me semble qu'ils pensent les deux, enfin, selon les endroits et selon ses références. Je ne sais pas si je...
Si, allez-y. Mais je me demande si, finalement, le sujet de la guerre l'intéresse vraiment et s'il ne banalise pas ce sujet pour faire du Proust, enfin, pour littérariser, et même ce passage sur les femmes à haut turban, bon, c'est pour lui l'occasion d'ajouter une comparaison picturale, je crois qu'il y a du Carpaccio derrière tout cela, ou une analogie temporelle, parce que je crois qu'il y a deux temps historiques qu'il met en rapport, et de même, quand, dans la citation 5, finalement, il décrit la guerre, mais il revient, comme vous l'avez dit, à des moments clés de son œuvre, d'une part le soir de l'amitié qui est très important, d'autre part la lanterne magique, plus on pourrait ajouter le souterrain, le Paris souterrain de la guerre, c'est aussi le souterrain du château de Roussainville qui est aussi déjà un lieu de perversité chez les enfants. Donc je ne sais pas ce qui est le plus important pour Proust. Si vraiment la guerre l'intéresse en tant que motif sociologique historique, ou si c'est secondaire par rapport à ses propres préoccupations, l'un et l'autre sans doute.
L'un et l'autre. Mais enfin, ce qu'il faut quand même redire, c'est combien les événements de la guerre sont absents, en fait. Quasi totalement. Je n'ai relevé pratiquement que les vols aériens dans Paris, et encore c'est pour leur charme, ce qu'ils ont de...
Pour ce que dit Mireille, c'est pour ça que dans l'argumentaire du séminaire, j'avais cité la lettre de 1918 à la princesse Soulzon, je crois, où Proust dit que la guerre est comme une substance interposée entre lui et le monde, et qu'il voit dans la guerre, c'est-à-dire que c'est une sorte de milieu au travers desquels le monde apparaît à un certain moment. Donc dire que la guerre ne l'intéresse pas, c'est pas la question, il est dans la guerre. La guerre est une espèce de milieu d'apparition du monde à un moment donné. Et donc la question c'est, est-ce que ce filtre modifie en profondeur une réalité sociale ou pas? Quand vous dites, la petite objection que j'aurais à votre très beau modèle de Charlus transgresse sa caste, c'est que au fond, cette transgression, elle est antérieure à la guerre. Parce que Jupien, c'est déjà une transgression, coucher avec un... Je sais plus, j'ai essayé son métier, un concierge, un boutiquier, voilà. Qu'est-ce que la guerre change? Puisqu'il y a la mise en garde au début du temps du... Ce qui n'est pas le temps retrouvé, mais ce qui est Sodome et Gomorre, à savoir, la guerre, certains, les doxosophes, sous-entendus, comme vous diriez, sous-entendent qu'il y a une faille entre l'avant-guerre et la guerre, et le narrateur met en question l'existence de cette faille. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a le kaléidoscope, comme vous m'a montré mon Akami récemment, en fait c'est une roue, c'est-à-dire que ça n'en finit pas de revenir comme c'était, il y a ce qui était en haut passe en bas, ce qui était en bas passe en haut, les Dreyfusards étaient en bas, ils remontent, voilà. Alors, est-ce que la guerre change quelque chose? Ou est-ce que la guerre est simplement un révélateur de réalité qui de toute façon est bien là?
Je crois en tout cas que, en effet, quant à la position que le héros narrateur, je ne m'en tire jamais très bien avec ça, mais vous non plus de vous rassurer, occupe, je dirais que par rapport à tout ce qui précède, c'est-à-dire tous les autres volumes de la recherche, c'est comme simplement accentuer enfin, ce qu'on connaissait déjà. Je parle d'ethnologie, mais c'est une métaphore d'abord, et en second lieu, c'est une métaphore qu'on aurait pu déjà appliquer à toute la recherche du temps perdu, d'une certaine façon. Sauf qu'ici, quelque chose en effet, que ça soit dans les choses ou dans l'esprit de l'observateur, c'est qu'en réalité, il y a du changement, et un changement par rapport auquel... le dit observateur, ethnologue ou pas, a pris de la distance. Enfin, donc, il y a une sorte d'accentuation forte de quelque chose qui existait. Est-ce que c'est une réponse à ce que vous dites?
Donc, c'est pas vraiment un changement, en un certain sens.
En un certain sens, oui, je crois.
Une radicalisation, le fait que les traces
accusent, oui, oui.
Et qu'en quelque sorte, il y a comme une chimicalisation qui fait que la vérité apparaît, de toute façon, la vérité des êtres était encore un peu... comme un acide qui va ronger, et on va voir apparaître la vraie Madame Bergevin, vous connaissez déjà bien sûr, mais...
c'est ça, on peut prendre on peut prendre à peu près tous les exemples. Brichot, qui est tout à coup très bête, qui fait des choses très... Mais c'est ça que c'est ce que vous voulez dire. Il a toujours été chochotte, en fait. Mais il se démasque, pourrait-on dire. Voilà, la guerre peut-être... La guerre est un révélateur de ce que l'on savait. Il me semble que ça dit ça. Ça ne vous arrange pas ?
Non. C'est vraiment la question de la bigarreur des classes. Il me semble que pour l'homosexuel, elle n'est vraiment pas du tout liée à la guerre. Dans le cas de Charlus, il va forcément chercher ses amants. C'est plus facile, c'est moins dangereux.
C'est ça.
C'est très choquant de dire que la... c'est très choquant, il y a une provocation du texte de dire que la guerre est le roman passionné des homosexuels. Ça c'est une provocation notable.
Absolument.
Sans doute que si le temps retrouve, si ce volet m'avait paru après-guerre, on sait que ça n'est pas passé tout seul.
Non, c'est ça.
Et j'en profite pour rappeler ce qu'on avait dit à la première séance, à savoir que la guerre dans le temps retrouvé n'appartient pas au temps retrouvé, mais appartient à Sodome et Gomorre et le dernier chapitre de Sodome et Gomorre. Oui. Ça, c'est fondamental pour l'intelligence de l'épisode dans le roman. C'est un épisode de Sodome et Gomorre. Ça n'a jamais été conçu comme un épisode du temps retrouvé. Vraiment, Sodome et Gomorre, je dirais le bouquet final, comme il y a les éclats, c'est le bouquet final.
La séquence guerre.
La séquence entière, absolument. Absolument. On peut tout à fait considérer que le temps retrouvé s'achève. Le Sodome et Gomorre s'achève avec la dernière rencontre de Charlus et Jupien par le narrateur, qui fait totalement écho à leur première rencontre. Comme par hasard, ils retrouvent, sauf que maintenant, le couple chaud du début n'est plus qu'un couple conjugal. Avec Jupien qui entoure le baron pour ne pas qu'il court trop après les petits garçons. Mais il y a vraiment un écho de première rencontre, dernière rencontre, qui enserre Sodome et Gomorre dans une sorte de prise narrative très claire et très forte. Certainement que si Proust avait vécu un peu plus longtemps, il avait annoncé en 22, je publierais Sodome et Gomorre 3, c'est-à-dire prisonnier de la Bertie disparue, Sodome et Gomorre 4, Sodome et Gomorre 5 et peut-être 6. Il est évident que l'épisode de la guerre n'est pas pour rien dans. On voit bien thématiquement combien de choses s'éclairent si on considère que la guerre, c'est ce que nous toutes ces métaphores sur la pluie, le soufre de sa pelle, etc. Bien sûr, la guerre devient à ce moment-là une sorte de deus ex machina pour le romancier parce que ça apporte, ça motive la métaphore de Sodome qui d'ailleurs apparaît en 1916. C'est en 1916, en pleine guerre, que Proust écrit à Gallimard en disant « Mon livre plus long que je me rendais compte moi-même » comporte un volume que j'intitule « Sodome et Gomorre ». Donc il y a effectivement un moment où, je dirais, le texte biblique, en quelque sorte, a une chance de s'incarner. Alors il prend le relais Pompéi au milieu, mais c'est Sodome, Pompéi, Paris. Donc, de ce fait, l'hôtel de Jupien, c'est vraiment le nœud. C'est vraiment là où ça, c'est vraiment... c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec le fait que vous l'avez mis au cœur de votre exposé. Tous les fils se retrouvent avec ces pauvres petits poilus qui sont un peu d'argent.
Oui.
Et le fait qu'il y a un ordre, enfin, ce qui est très frappant dans ces épisodes, c'est l'ordre social. Le côté extrêmement, domestique de cet hôtel. Il y a une petite économie domestique. Tout est extraordinairement quotidien et domestique. Et sans aucun dire bon, t'as pas les chaînes qu'il faut, ah zut, t'as pas aller en chercher. C'est vraiment, on ne peut plus trivial et sans aucune exaltation érotique réelle.
Et sur le point de savoir ce que fait la Marcelle, qu'est-ce qu'on dit d'habitude?
Ben, on dit, vous savez, il y avait la Végéto qui a fait cet ouvrage, Lapsus du
narrateur. Oui, c'est ça.
Il se fait tomber sur les doigts parce que c'est pas un lapsus du narrateur, c'est un lapsus de Proust. c'est que le narrateur se trouve dans la même chambre que celle dans laquelle Charlus se fait fouetter. C'est-à-dire que la chambre dans laquelle Charlus se fait fouetter, c'est la chambre 43, oui. Et le narrateur, le héros, se retrouve aussi dans la chambre 43. Je ne sais plus exactement.
Oui, j'en souviens de ça.
C'est un peu vidé dans la salle. Donc, je réponds à la question.
Non, mais...
Où se levait le chapeau?
Mais ce que j'ai vu dans le texte, c'est qu'on dit qu'il est entré là pour se reposer.
Il avait soif.
Ah oui, voilà.
Il avait soif.
Oui, donc. C'est même pas des lapsus, ça. C'est...
Il avait très soif. Mais non, il y a le couvre-feu.
Ah.
Il a très soif, c'est le seul hôtel ouvert. Il rentre, il voit la lumière, il rentre.
Puis il va le manger.
Ça, je sais.
Mais oui, c'est le mari.
Non, on va peut-être pas faire de la référence littéraire de crainte.
Non.
On sait que la rue de l'Arcade est à deux pas du boulevard Haussmann, mais en l'occurrence. En l'occurrence, le narrateur a déambulé pendant des heures. Des heures, c'est pour ça que. Non, j'aurais une question sur ce que vous avez dit, c'est très intéressant, vous avez dit qu'il y a une variation du style de Proust avec des effets propres au dernier volume. Est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'était à propos de la citation 5.
Oui, c'est ça, mais aussi de...
Alors, j'ai été intriguée par cette remarque et très intéressée. Vous avez dit qu'il y avait une variation du style.
Oui, ce que j'avais à l'esprit, mais qui n'était pas très clair ni très net, c'est une sorte de composition en boucle, enfin, que je sentais plus que je ne la voyais. Mais ça partait aussi de la deuxième citation avec les dames en turban. Tandis qu'à la porte les attendaient leurs automobiles.
Je lis
peut-être mal, hein, mais tandis qu'à la porte les attendaient leurs automobiles, le lait, on ne sait pas qui c'est, tant qu'on n'a pas.
Il faut attendre la fin.
Oui, c'est ça.
À la porte. Oui, c'est curieux.
Oui, c'est ça.
C'est très, très,
très... C'est très beau en même temps parce que. En même temps, très beau ce turban qui termine la phrase et qui pointe au bout de la phrase. Voilà, c'était des choses comme ça. Et puis dans la 5, c'était tout le mouvement de. Le mouvement de la précipitation où on est obligé, où les gens sont obligés de saisir leurs vêtements rapidement pour sortir de là parce que c'est le couvre-feu.
La belle allitération, la bousculade des gens musclés.
Voilà. Et alors il arrive à mettre la lanterne magique et le cinéma, ce qui est une sorte de résumé de l'histoire. Résumé de l'histoire médiologique, etc. Enfin voilà. Mais il a dû faire ça ailleurs, hein, ce serait trop beau. Ce
Oui, j'aurais une question, mais j'ai raté le début de votre intervention à cause des problèmes de transport, je suis désolé, vous en avez peut-être déjà parlé, de question de méthode, et peut-être qu'il pourrait se ramener à vous interrogez sur une formule que vous venez de dire. Alors, l'ethnologie, c'est une métaphore. Quel rapport peut avoir l'analyse que vous avez développée par rapport à l'ethnologie? Quel est le lien métaphorique, l'analogie, ce qu'il y a de commun, différent?
Oui.
C'est un peu, c'est très très vaste.
C'est vaste, oui. Je disais justement métaphore pour me mettre à l'abri d'une question comme celle-là. Mais enfin, il faut que j'assume maintenant. Oui, c'est vraiment une question de distance. Ce n'est pas seulement qu'il soit à distance, mais c'est... Il me semblait que c'était assez bien. Ça faisait, l'ethnologie faisait comprendre qu'il considère des événements qui se produisent sous ses yeux dans un lieu pourtant familier, en se disant comme c'est étrange. Ce qui me paraît le regard basique de l'ethnologue. Enfin, ça ne va pas beaucoup plus loin, malheureusement, dans mon esprit, mais comme c'est étrange, qui sont ces gens-là, d'où viennent-ils? Enfin, vous voyez, c'est entouré de... Là où le sociologue a déjà un code pour interpréter la société qu'il a sous les yeux, ici, le narrateur nous fait croire qu'il n'en a pas trop, enfin, alors qu'il en a, bien sûr, mais... Voilà. Donc, c'est le fait de relever des incongruités sociales en nombre. Je ne vais pas vous aider beaucoup plus. Et on revient à la remarque de Nathalie, si vous voulez, à savoir est-ce qu'il n'a pas toujours fait ça? Je pense qu'il a, oui, il a toujours fait ça. Mais ici, il se trouve que l'objet même... décrit ou raconté est particulièrement étonnant. Et anomique, si vous voulez. Fonctionnant sont des règles qu'il faut reconstituer. C'est comme ça.
Bon. On peut l'imaginer, on peut savoir, ça dépend. C'est une démystification de la perversion. Je pense.
Oui.
Démystification complète de la perversion.
Très bien, ça.
Pas grand chose. Alors, évidemment, après, l'imaginaire prométhéen de Charlus. Gonflé, puisque évidemment le fantasme est toujours un gonflement d'imaginaire qui est nécessaire au plaisir. Sans quoi il ne pas, évidemment. Mais il y a tous entre fantasmatique. François Riche.
Oui, mais justement, je pourrais rebondir sur le terme de démystification et revenir à une question qu'on avait posée de façon un peu préalable. Parce qu'on se demandait quel était l'intérêt finalement de la guerre dans le roman. Est-ce que Proust ne fait pas du Proust, ne développe pas toujours ces mêmes. Thématique sociale, en un sens, oui, la guerre comme révélateur simplement de la société, oui, mais je pense qu'un des buts de Proust, c'est toujours de démystifier les discours idéologiques, les faux semblants, les fausses théories. Il l'a fait depuis contre Sainte-Beuve, toujours. Et pendant la guerre, les discours ont fleuri de toutes sortes, dont il dénonce un certain nombre ici. Mais aussi l'idée que c'est nouveau, on entre dans une nouvelle ère, je ne sais quoi, enfin la guerre comme étant le début de je ne sais quoi. Et je crois que Proust, il me semble que Proust se méfie beaucoup du discours c'est nouveau, c'est une période de rupture. Enfin, je crois que Proust se méfie du discours de la rupture, ne croit pas à la rupture, et qu'il croit beaucoup plus au temps long. Et donc, c'est une manière de montrer que ça ne change rien du tout, qu'il n'y a pas de rupture avec ce qui se faisait avant, il y a plus une accentuation, ça on l'a dit. Mais ce qui m'intéresse précisément dans la dernière citation, c'est dans quelle mesure il ne serait pas d'accord avec Charlus pour penser que la guerre, l'affaire Dreyfus, ce ne sont que des révélateurs de la société à un moment donné, mais que sur le fond, ça ne change rien du tout, qu'il y a des mécanismes, enfin quelque chose comme ça, donc que pour se situer dans le temps long et utilise la guerre pour dénoncer un certain nombre de discours.
Oui, j'aime beaucoup ça. Je dirais même que dans toute cette séquence, Charlus plus Saint-Loup, puisque j'ai essayé de les confondre, on va peut-être y revenir, mais Charlus apparaît quand même comme celui qui a tout compris. Enfin, alors quel que soit le reste et son comportement, etc., mais quand même Charlus, tout ce qu'il dit, c'est ce que pense Proust, enfin, me semble-t-il, assez largement. Y compris dans la contradiction, enfin. Finalement, ce que je retiens de cette séquence, c'est peut-être ça, c'est que Charlus est au bout du rouleau, il est l'image même d'une sorte de déchéance, et il est en même temps dans la grandeur et dans l'intelligence des choses, enfin. C'est pourquoi j'aimais cette expression, la chose durable. La chose durable, c'est justement ce qui est par excellence évanescent.
Est-ce que la naissance, c'est évanescent ?
Oui, la chose durable, c'était la naissance et,
et la beauté.
Oui, c'est ça.
Oui, et justement, c'est ce qui n'est pas évanescent, puisque dans la perspective de Charlus, la naissance, c'est la lignée.
Oui.
Donc c'est précisément ce qui...
C'est quoi les autres prestiges ? Il y a justement une citation là. La naissance unie à la beauté et à d'autres prestiges était la chose durable.
Je ne puis évidemment le dire, mais la naissance me gêne. C'est surtout la naissance qui me gêne, parce que... Pourquoi cette espèce de retour de l'hérédité, l'héritage à cet endroit-ci ?
Mais c'est le point de vue de Charlus.
C'est vrai.
C'est
juste, donc,
mais ça. Juste pour Proust, t'es d'accord ou pas ?
La question, c'est
ça.
Est-il d'accord ?
Mais oui, c'est ça.
Proust est forcément multiple, compliqué, paradoxal, contradictoire, comme tout un chacun. Donc, il est certainement Charlus, mais il est aussi son frère qui est au front, incarne. Mais là, c'est vraiment le point de vue de Charlus. L'infériorité de Charlus était si systématique. Donc, c'est pas présenté tout de même comme la frivolité, mais pas forcément une valeur.
Qu'est-ce qui n'est pas une valeur ?
La frivolité. On pourrait dire que
Charlus fait un renversement des valeurs. Sa frivolité, c'est de renverser les valeurs. De considérer la guerre et l'affaire de la fuse comme une guerre et un fugitif.
Le roman le présente aussi comme fugitif, puisque l'affaire de la fuse suscite l'image du kaléidoscope, donc de la route fortune.
Par rapport à ces choses-là, je crois que comment dire, la solution que je me fais, enfin que je ne vous propose même pas, mais que je me fais pour moi, c'est de dire, au fond, si on additionne Charlus et Saint-Loup, on arrive à un personnage du supérieur qui est tout à fait intéressant parce qu'il arrive à faire la synthèse entre les contradictoires. Et que, bon, bah c'est con, cette synthèse des contradictoires, c'est ma lecture du texte dans cet épisode de la guerre. Enfin, que patriotisme et défaitisme qui me déplaisent l'un et l'autre m'intéressent dès le moment qu'ils vont ensemble, enfin, qu'on arrive à les concilier pour de bonnes raisons et en s'expliquant. Et de même, peut-être, en effet, pour sérieux et frivolité. Maintenant, je ne sais pas si c'est sérieux qui convient, mais gravité des choses et frivolité. Ça dit ça aussi. Enfin, ça, si ça ne les additionne pas, ces deux valeurs, ça les articule. En tout cas. Et...
Donc, il y a une saturation.
En quelque sorte, oui, l'espace du sens et des valeurs, oui, je pense. Mais rapporté à très peu de personnages, puisqu'ils ne sont plus que deux, et encore je n'en fais qu'un. Tous les autres étant incapables de se hausser à cette pensée-là. Il me semble qu'il y a quand même une sorte de philosophie de l'histoire ici, quelque part. Mais très fugace, hein, on ne s'attarde pas, il ne développe pas. Il ne demande plutôt de la constituer à partir d'éléments épars, comme il fait toujours, finalement.
Ah, il ne nous demande rien du tout, parce que c'est un texte posthume qui n'a pas le temps de terminer. Donc peut-être qu'il aurait eu ses développements dans sa confiance. À partir d'éléments narratifs forts.
Qu'est-ce qu'il en est du séjour en maison de santé? Ça s'est produit hors de Paris?
Le seul séjour en maison de tous que moi je connais, c'est après la mort de sa mère, parce qu'il va à Versailles quelques mois, c'est très curieux comme épisode. C'est pas vraiment une maison de santé puisqu'il va à l'hôtel. Enfin, il va aussi.
Non, c'est un sanatorium.
Beaucoup moins longtemps.
C'est chemin.
Oui, en moins de mois.
En moins de mois quand même. C'est
chemin. Il n'a pas le droit d'écrire des lettres, il fait écrire des lettres.
Et c'est pendant la guerre?
C'est après la mort de sa mère en 1905-1906.
Ah.
Pas du tout lié à la guerre. Sur ça, dans un article, oui. Narratif, on pourrait expliquer que
notre héros n'est pas parti au front.
Il faut justifier ça. Pourquoi?
C'est ça.
Et oui.
Ben oui, c'est
pourquoi
ça.
Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti?
Pourquoi lui n'est-il pas? Il est réformé. On comprend qu'il est réformé. Mais il est réformé pour des raisons.
Est-ce qu'on peut déterminer son âge qu'il a à ce moment de la guerre? C'est assez compliqué la chronologie.
De toute façon, si.
J'ai déjà tout dit, mais mal. Non, je crois que ce qui est intéressant, bon, vous avez dit tout à l'heure, ça je le reprends volontiers, ou ça m'a le riche, je ne sais plus, l'idée du temps long, hein, sans doute, mais qui s'assortit alors de la réflexion sur... les vrais événements ne sont pas ceux que l'on croit, enfin, et ce qui et pas seulement dans une perspective personnelle ou individuelle, mais plus largement, pour les collectivités, les grands événements, ce sont les mutations profondes qui se produisent au sein des collectivités, pas indépendamment des secousses, mais en tout cas par-delà les secousses. Je crois qu'il ne dirait pas que la guerre ne fait rien mais l'essentiel dans la guerre, mais l'essentiel n'est pas la guerre. Enfin,
la première description des femmes et de leur chauffeur et de cette vie très, très superficielle me faisait penser à la société coloniale, aux romans de Duras, bon, qui certes sont postérieurs et de beaucoup, mais qui décrivent un état de fait contemporain finalement de 1914, enfin Duras naît en 1914, et bon, là je fais vraiment de la science-fiction, ce serait plutôt Duras évidemment qui se serait inspiré de Proust, mais cela me faisait penser à la société coloniale, une société qui est hors normes, où tout est permis, hors lieu, et qui est donc très, très, très permissive et très transgressive.
Oui, je n'ai pas pensé comme ça, mais pourquoi pas. Il y a en effet très fort cette idée de règles qui ont sauté, hein, qui ont disparu. Pour moi, en tout cas, je ne sais pas si ça évoque pour vous d'autres passages dans la recherche, mais... cette idée de la première citation où dans le noir on peut désormais se toucher se dispenser des travaux d'approche et des formules de politesse et tout le reste, c'est quand même extravagant d'écrire des choses comme ça, non? Enfin, je ne sais pas quel coup d'audace, et surtout qu'il survient comme ça au milieu du reste, enfin, c'est-à-dire qu'il n'est pas spécialement préparé. Et là, il ne l'attribue quand même ni à Charlus, ni à Saint-Louis, ni à personne qu'à lui-même, semble-t-il. Enfin, Ah non, vous n'avez pas l'air très...
Si. Mais justement, dans Duras, il y a des passages qui sont... Enfin, c'est un Proust très moderne que l'on a dans cette... se trouve dans cette première citation, avec notamment l'importance du corps que l'on retrouve dans les romans de Duras. Enfin, un barrage contre le Pacifique, il y a une magnifique description de la piscine très coloniale, où l'on voit justement les corps se mouvoir. On a l'impression que ce sont des entités autonomes qui... Déjà le nouveau roman, enfin c'est Duras, c'est pas Proust, mais évidemment pas un nouveau roman.
Oui. Je ne sais pas trop si vous me le laissez ou si vous pensez par devers vous que c'est juste une idée biscornue. Non.
C'est très important. Et en effet, vous avez souligné le fait qu'il ne se croise jamais dans cette hôtel. Il ne se croise pas.
Non, maintenant, j'avais en commençant laissé passer quelque chose, laissé. Percer quelque chose qui était qu'en effet le livre que j'écris actuellement qui n'a pas beaucoup de méthode, me semble-t-il, mais qui a au moins un point de vue assez constant, c'est que je prends une série de romans, ou de morceaux de romans, comme dans ce cas-ci, en essayant de transgresser le texte, mais sans jamais me mettre dans un mauvais pas. C'est-à-dire, mais je vais prendre un cas plus clair, plus flagrant. Pour l'instant, j'écris sur La cousine bête de Balzac, et ce qui ne va pas vous surprendre peut-être beaucoup, mais enfin, il faut quand même, quand il s'agit de faire la démonstration, il faut quand même y aller. Je prends la défense de Valérie Marneff, ou en plus exactement, je ne sais pas si vous avez La cousine bête à l'esprit, mais Valérie Marneff est une espèce de super courtisane. Super courtisane parce qu'elle n'est justement pas courtisane de profession, c'est la femme d'un petit fonctionnaire, mais qui va perdre le baron Hulot et plusieurs hommes encore, donc Revel et je ne sais pas encore qui, car elle a à un certain moment 4 ou 5 amants, et se conduit de façon particulièrement ignoble, on peut dire ça, enfin, ne songeant qu'à détruire ses partenaires. Bon, ben, je prends simplement sa défense et je soutiens que c'est une femme magnifique. Une véritable justicière sociale. Ce n'est pas très difficile dans ce cas-là. Voilà. Ce sont donc des petits jeux avec la fiction, en quelque sorte. Et le petit jeu ici, mais je pense qu'il n'est pas suffisamment avéré, c'est de superposer Charles et Saint-Louis. Il me semble que je devrais y aller plus fort. Je n'ai pas suffisamment impressionné vos esprits.
C'est-à-dire qu'on voit plus un trait d'union qu'une superposition.
C'est ça, oui. C'est vrai. Mais on peut peut-être pas aller au-delà. Même en rêvant, enfin. Ou alors il faut réécrire, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Non. Je veux me servir de ce que le texte me donne. Voilà, je voulais simplement préciser cela.
Merci énormément. Merci à vous.